saison qui s'ouvre devant nous. Et depuis le mois de janvier, on aborde chaque mois un thème particulier de la vie de l'Église, de toute vie d'Église. Au mois de janvier, c'était l'adoration. En février, c'était la communion fraternelle. En mars, c'était le témoignage. En avril, c'était l'enseignement. Et puis là, on est au mois de mai maintenant. Et on arrive au thème que vous attendez tous, le service. Alors, j'ai ramené quelques petites choses pour voilà, illustrer tout ça. J'avais pas mon tablier aujourd'hui. Parce que le chrétien, c'est vrai, n'est pas seulement un adorateur, c'est pas seulement un frère ou une sœur en Christ, c'est pas seulement un témoin du Christ. On n'est pas seulement des disciples à l'école de Jésus-Christ, comme on l'a vu, mais on est aussi des serviteurs. Et ce n'est pas forcément un thème très à la mode, hein. On préfère nous entendre dire que le Seigneur veut faire de nous des leaders, qu'on est appelé à dominer, à être la tête, non pas la queue. Et même dans nos églises, parfois, le mot serviteur, qui désigne dans la Bible à la base un esclave, est utilisé comme un titre. Le grand serviteur de Dieu. Rappelez-vous, dans le mot ministère, c'est mini, c'est le petit, c'est le serviteur. C'est de là que ça vient. Alors, on va aborder ce thème du service, qui est vraiment fondamental, qui parcourt toute la Bible, comme on va le voir. La dimension du service, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est au cœur de notre identité, de notre vocation chrétienne. Et pour commencer cela, j'aimerais aujourd'hui qu'on fixe vraiment nos regards sur l'exemple du serviteur parfait. Vous savez qui c'est? Jésus-Christ. Jésus-Christ, serviteur parfait. Il y en a beaucoup parlé de liberté, de libérer de l'esclavage. Et le thème de mon message, c'est être libéré. Nous avons été libérés de l'esclavage par Christ pour servir. C'est paradoxal, hein? Mais c'est ce que nous dit la Bible. Et pour cela, je vous invite à nous tourner ensemble vers un passage qui se situe au 10e chapitre de l'évangile de Marc, Marc chapitre 10, à partir du verset 32. Et je vais lire juste le début, puis commenter un peu au fur et à mesure. Marc 10, verset 32. Ils étaient en route, donc Jésus, ses disciples, hein, étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Je m'arrête juste sur ce verset. Le texte nous dit que Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem, la ville sainte. Le lieu de la présence de Dieu, là où est le temple. Mais le texte nous dit que l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. C'est un peu spécial. Il y a comme un climat d'angoisse, de peur, de crainte parmi les disciples. Et on peut se dire, c'est bizarre qu'on ne se rappelle pas le contexte. Pourquoi? Et probablement parce que ça fait déjà 2 fois que Jésus, depuis qu'ils ont pris la route depuis la Galilée vers Jérusalem, 2 fois que Jésus a annoncé que ça va pas trop bien se passer à Jérusalem. Qu'il va se faire arrêter, qu'il va mourir même à Jérusalem. Et forcément, ce genre d'annonce, ça met un peu tout le monde mal à l'aise, hein? Mais en même temps, c'est assez clair que les disciples, ils y croient pas trop. Parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'ils auraient arrêté de suivre Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Vous suivez quelqu'un qui vous dit: alors, je vous explique le plan, on va à Jérusalem, je me laisse arrêter, je meurs. Venez avec moi. Ouais. Si vraiment ils avaient compris cela, les disciples auraient déjà dit: écoute Jésus, j'ai bien apprécié te suivre jusque-là. Alors, les malades guéris, les captifs libérés, la multiplication des pains, ouais, c'était super tout ça, hein. Mais là, tout d'un coup, je me souviens, je crois que j'ai oublié un truc sur le feu en Galilée. J'ai mes parents qui m'attendent à la pêche. Et d'ailleurs, la première fois que Jésus va annoncer ça au chapitre 8 de l'Évangile, Première fois qu'il dit qu'il va être arrêté et mis à mort à Jérusalem, vous avez le disciple numéro un peu le leader du groupe, qui s'appelle Pierre, qui va venir voir Jésus. Il dit, Jésus, viens voir, attends, il faut que je te parle. Écoute, Jésus, non, non, tu ne peux pas dire ça quand même. Rappelez-vous ce que dit Jésus à Pierre. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains. Et si les disciples suivent encore Jésus, c'est parce qu'ils ne veulent pas tout à fait croire encore à ce que Jésus leur annonce. Pour eux, Jésus, c'est le roi glorieux, le roi Messie tant attendu. Ils l'ont vu, ils ont vu ses miracles, ils ont vu comment il... Ah, c'est lui. Et s'il va à Jérusalem, c'est pour prendre le pouvoir, c'est pour virer les Romains et tous les usurpateurs et puis s'asseoir sur le trône éternel et glorieux. Ils suivent ce Jésus-là. Jésus qui chante l'eau en vin, qui rend la vue aux aveugles. Mais un Jésus qui se laisse mépriser... insulter, arrêter, mettre à mort. Ah, ça, on a du mal à y croire quand même. Et ça les met mal à l'aise. Il y a une forme de crainte, une forme d'incompréhension, d'incertitude, de doute. Et parfois, avouons-le, on est peut-être un peu aussi comme ça. Hein, on veut bien suivre un Jésus qui fait des miracles, un Jésus qui est victorieux, qui brille. Mais un Jésus qui se laisse humilier, qui accepte la souffrance, qui meurt sur la croix. Alors, on va retourner vers le texte. Dans ce contexte de malaise, d'incertitude, Jésus va prendre la parole. Et on va se dire, bon, il va les rassurer, ses disciples. Et voyez ce qu'il leur dit. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Bon, honnêtement... Face à la peur des disciples, ouais, tout le monde était déjà dans la crainte, la peur, un peu mal à l'aise. On dit que le discours de Jésus, c'est pas forcément celui que nous, on aurait fait. Hein. On s'attendrait plutôt à ce que Jésus dise un truc du genre « Allez les gars, ça va aller, ça va aller, et puis à la fin, on va prendre le pouvoir, on va gagner. Hein. » Mais non, Jésus en rajoute plutôt une couche. Si on va à Jérusalem, dit-il, c'est parce que lui, Jésus, le Fils de l'homme glorieux, doit s'y faire arrêter et condamner à mort. Jésus, il emploie ici cette expression « le Fils de l'homme » pour parler de lui. C'est une expression qu'on trouve souvent dans les évangiles, où Jésus se présente souvent comme le Fils de l'homme. C'est une expression un peu ambiguë, parce que « Fils de l'homme », on pourrait dire, ça veut dire que Jésus, ceux qui ont peut-être pas trop réalisé qui est Jésus, pourraient dire « oui, il se présente comme un humain, un simple être humain ». Mais pour des Juifs qui connaissent bien les Écritures et qui commencent à discerner en Jésus plus qu'un simple être humain, cette expression « Fils de l'homme », elle fait forcément écho à une prophétie qu'on trouve dans le livre de Daniel. C'est un passage qu'on trouve en Daniel au chapitre 7 et qui présente le Messie à venir comme le Fils de l'homme. Je vous lis juste les versets 13 et 14 du Daniel 7. « Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un Fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la loyauté, et tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes de toute langue lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » C'est ce Fils de l'homme-là qu'est Jésus. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans l'Évangile, quand il sera devant le Sanhédrin, Jésus va citer ce texte de Daniel pour parler de lui. « Le Fils de l'homme viendra sur les nuées et tout genou fléchira devant lui. » Jésus sait qu'il est ce Fils de l'homme-là. Il se le présente comme ça. Il est le roi glorieux et éternel qui vient sur les nuées, qui règne sur toute l'humanité. Et on peut penser que ses disciples, ils ont commencé aussi à croire cela. Parce qu'ils ont vu ces miracles, ils ont vu ces prodiges. Ils croient que Jésus est ce roi glorieux. Mais par contre, ils ont du mal à comprendre ce que Jésus leur dit désormais. Lui, le roi des rois, il va à Jérusalem pour qu'on se moque de lui, dit le texte, qu'on lui crache au visage, qu'on le torture, qu'on le mette à mort. Et puis le troisième jour, il ressuscitera. Mais quand même. On va lire la suite du texte. On va le lire jusqu'au bout, là, verset 35. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?»« Oui, » leur répondirent-ils. « Nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean, quand même. Alors Jésus les appela tout auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple. Et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voyez, pour la troisième fois dans cette section de l'évangile de Marc, Jésus annonce qu'il va mourir, puis ressusciter, bien sûr. Et si vous avez déjà lu cette partie de l'évangile de Marc, vous saurez aussi que c'est la troisième fois qu'à chaque fois que ça se passe comme ça, les disciples réagissent de manière inappropriée, comme s'ils étaient un peu sourds, comme s'ils avaient du mal à comprendre ce que Jésus venait de leur dire. Cette fois, ce n'est pas Pierre qui vient trouver Jésus, juste après qu'il ait dit ça, mais c'est les numéros 2 et 3 du groupe, hein, Jacques et Jean. C'est un peu ceux qui sont souvent voilà, très proches de Jésus dans les évangiles. Et qui réagissent de façon très surprenante. Hein. Dis-nous, Jésus, une fois que tu seras couronné roi, tu ne pourrais pas nous réserver la place à ta droite, à ta gauche, les meilleures places? Autrement dit, ils veulent être les premiers ministres du roi des rois. Alors Jésus leur fait comprendre, hein, d'une certaine manière, je crois que vous n'avez pas bien entendu ce que je viens de dire. Peut-être qu'il faisait la sieste pendant la prédication, je ne sais pas. Alors il lui fait une petite piqûre de rappel. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême par lequel je vais passer? Ce qui est une manière imagée dans le langage de l'époque de se référer aux souffrances que Jésus va subir jusqu'à la croix. Jésus leur dit d'une certaine manière, « Est-ce que vous avez compris que mon trône de gloire, il est construit avec le bois de la croix? Est-ce que vous avez compris de quelle nature est mon règne ?» Bizarrement, les disciples, d'une certaine manière, répondent à Jésus, « Oui, oui, on est prêt, oui, on peut, ouais, ça va. » Mais on voit bien que Jésus a compris qu'ils n'ont pas vraiment bien compris, hein. Et peut-être, je ne sais pas quel était leur raisonnement, peut-être qu'ils se sont dit, Jésus a dit, voilà, il va mourir, et puis 3 jours après, il ressuscite. 2-3 jours de souffrance, ok, ça peut passer pour un règne éternel, hein, et glorieux. On est prêt, ça marche, 2-3 jours peut-être, si c'est le prix à payer pour être les premiers ministres, ok, ça passe. Un examen d'entrée raisonnable. Mais non. C'est parce que voulait dire Jésus. Le chemin de souffrance de Jésus, ce n'est pas juste un détail par lequel il faut passer. C'est un point central de l'identité de Jésus, de ce qu'il a fait, de son œuvre. C'est un aspect fondamental de qui est Jésus. Parce que ce n'est pas la souffrance ici qui est le point central, mais c'est que c'est par cette souffrance Jésus est en train de démontrer qu'il est un roi serviteur. Et Jésus l'explique. Ne pensez pas comme les nations, comme les rois du monde, comme les puissants de ce monde. Ne régnez pas comme règnent les puissants de ce monde qui dominent en souhaitant démonter leur force avec puissance. Ça, ce n'est pas le royaume du Christ. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Jésus renverse les trônes de ce monde et nous fait comprendre ce que ça signifie vraiment régner selon Dieu. Il s'agit d'être grand en se faisant les serviteurs des autres. Il s'agit d'être le premier en se considérant comme étant l'esclave de tous. Et pourquoi sommes-nous appelés à devenir les serviteurs des autres, selon ce que dit Jésus? Le dernier verset nous donne la justification. Il y a ce mot car, parce que. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme ça qu'il termine. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà l'explication. Voilà la raison pour laquelle l'attitude du serviteur, c'est un aspect fondamental de notre identité en Christ. Parce que le service chrétien, il est ancré dans l'acte le plus fondamental, le plus central de la foi chrétienne, qui est la mort de Jésus pour nous à la croix, à notre place. Et si Jésus monte à Jérusalem pour être mis à mort, pour souffrir autant, c'est pas parce qu'il aime bien la souffrance, c'est pas parce qu'il serait masochiste, ça n'a rien de cela. C'est pas parce qu'il faudrait bien qu'il souffre un petit peu, non. C'est parce que sa mort sur la croix, c'est le service ultime qu'il nous rend à nous. C'est la crucifixion, c'est la pire manière de mourir à l'époque. La mort la plus humiliante. Celle qui est réservée aux pires malfaiteurs, aux esclaves notamment. Et Jésus choisit cette mort parce que c'est le moyen par lequel il donne sa vie en rançon pour beaucoup, dit-il. La souffrance de Jésus, ce n'est pas la rançon de la gloire, c'est la rançon pour notre salut. Vous savez, une rançon, c'est quoi? Une rançon, c'est une somme d'argent qui permet, dans notre vocabulaire, à un otage ou un prisonnier d'être libéré. Mais dans l'Antiquité, c'était aussi utilisé pour désigner la somme d'argent qui permettait d'acheter la liberté d'un esclave. Les esclaves étaient parfois devenus esclaves pour régler une dette et pour retrouver la liberté. Si quelqu'un leur payait cette dette à leur maître, ils pouvaient retrouver la liberté. Et Jésus, c'est ce qu'il dit. D'une certaine manière, c'est une image qu'il utilise pour nous faire comprendre son œuvre. C'est comme si Jésus, nous qui sommes esclaves, avec un prix à payer, venait trouver le maître, notre maître, et nous lui disait, je paye le prix de sa liberté et je le paye de ma vie. C'est assez paradoxal, hein? En mourant pour nous à la croix, Jésus s'est fait esclave pour nous, afin d'acheter notre liberté, pour qu'à notre tour, on puisse se faire esclave des autres. C'est ce qui est dit hein, dans le texte. Voilà la logique chrétienne. Alors comment comprendre cela? Pour nous aider à comprendre cela, comme on débute aussi tout ce thème du service, j'aimerais proposer de replacer cela dans la grande histoire du monde. Une histoire de roi, de serviteur et d'un roi serviteur. La grande histoire de Dieu, celle qui est racontée de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible, c'est un peu l'histoire d'un grand roi éternel, le Dieu infini, tout-puissant, qui existe de toute éternité. Et dès les premières pages de la Genèse, on nous raconte que ce roi a décidé de mettre les mains dans la boue, on pourrait dire, pour façonner un royaume. Le roi se met au travail et il façonne un royaume immense, large de plusieurs milliards d'années-lumière, l'univers. Et au cœur de ce royaume, il crée la terre qui est le joyau de sa création. Et au sein de cette magnifique planète où l'abondance règne, il place le chef-d'œuvre de sa création, façonné à son image, l'être humain, homme et femme. Le grand roi fait de l'être humain son représentant sur terre, responsable de prendre soin de son magnifique royaume. C'est ça le rôle de l'être humain. Il doit cultiver la terre. Il doit nommer les animaux. Il doit dominer la création. D'une certaine manière, l'être humain, c'est l'ambassadeur du roi des rois sur la terre. C'est ça sa mission. Il doit dominer la terre, c'est-à-dire exercer l'autorité du roi sur la création. Mais une autorité à l'image de celle exercée par le grand roi. Un roi qui se met au boulot. Dieu travaille, dit Genèse 1. Dieu travaille pour créer la terre et il le fait pour nous bénir, pour bénir ses sujets. Un roi serviteur. L'être humain a été créé pour régner en servant le reste de la création. D'ailleurs, en Genèse 2, quand il y a ce texte sur l'homme et la femme, ils sont présentés comme étant des vis-à-vis et comme étant une aide ou une assistant ou des assistants l'un pour l'autre. Et cette idée de service mutuel qui fait partie de ce pourquoi Dieu nous a créés. On est appelé à cultiver la terre, on pourrait traduire même servir la terre que le roi nous a donnée. Malheureusement, la suite de l'histoire est marquée par une terrible rébellion. Pour vivre la vie de bonheur voulue par les créateurs, les humains devaient accepter de rester dans cette dépendance de celui qui leur a tout donné, le roi des rois, Dieu, qui nous a donné la vie. Mais les premiers humains, et les suivants ne feront pas mieux, hein, les premiers humains ne purent se contenter d'être seulement les ambassadeurs du roi, créé à son image. Ils voulaient être rois tout seuls. Ils voulaient pouvoir décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Ils voulaient prendre leur indépendance. C'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils voulaient être rois à la place du roi, décidés par eux-mêmes. Dieu nous a placés dans une création incroyable, qui est extraordinaire. Chaque atome, chaque cellule témoigne de la grandeur du Créateur. La création tout entière, c'est comme un panneau lumineux géant qui dit « Regardez vers un Dieu qui vous aime ». Et pourtant, ce que nous dit la Bible, c'est comme nous sommes comme aveuglés. Nous pensons que je vais pouvoir mieux m'en sortir tout seul, en ignorant un créateur éventuel. On pense pouvoir libre, être libre et vivre libre. En étant mon propre roi, en me fiant qu'à moi-même, à mon ressenti, à mon compte en banque, à ma réussite personnelle, à mon nombre de followers sur Instagram, je ne sais pas. Et bizarrement, dans ce contexte-là, je ne sais pas si vous observez, mais on est loin d'être libre. On voit des personnes qui sont dépendantes, addict de ce qui semble pouvoir nous rendre libres. Et ce rejet de Dieu, le rejet de ses conseils, de ses commandements, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché, c'est un cercle vicieux qui nous maintient prisonniers. La Bible dit que nous sommes esclaves du péché. Parce qu'en ignorant le roi des rois, on pense devenir les rois de notre vie et en fait, on devient esclave de nous-mêmes. Esclave du péché, un esclave qui nous conduit à la mort loin du Dieu de la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que face à la rébellion de l'être humain, le roi des rois ne s'est pas avoué vaincu. Et bien au contraire, il va venir œuvrer pour restaurer son royaume et rétablir son règne. Et pour cela, le roi reste fidèle à ses principes. Il est un roi serviteur. Et il vient nous le démontrer en chair et en os. En Jésus-Christ, le roi éternel, tout-puissant, se fait humain. Jésus ne naît pas dans la maternité impériale à Rome. Il naît dans une simple étable, dans un petit village de Judée. Jésus ne grandit pas dans le palais de l'empereur magnifique, mais dans un simple village de Galilée. Il vit une vie simple, entouré non pas d'érudits, de nobles, de gens extraordinaires, mais des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des personnes des fois qui n'ont pas très bonne réputation. Il est le roi des rois. Et il va jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est une tâche, normalement, on l'a vu quand on a fait ça il y a quelques semaines, que c'est les esclaves qui faisaient ça. Et même pas tous, parce que c'était vraiment dégradant de laver les pieds de quelqu'un d'autre. Mais le roi des rois l'a fait. Et surtout, le roi des rois vient accomplir le service le plus humiliant, le plus difficile qui soit. Il meurt pour nous à la croix. Le roi serviteur donne sa vie en rançon pour nous, pour acheter notre liberté. Il prend sur lui l'énorme prix de notre esclavage. Notre rejet nous avait condamnés à l'esclavage et le roi lui-même se fait esclave pour nous offrir la liberté. Je ne sais pas si on réalise ce que ce roi des rois a accompli pour nous. Quel service incroyable! Quel amour! Quelle grâce! Le roi éternel, infini, tout-puissant, créateur de l'univers, a volontairement choisi de nous servir jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que si on a vraiment compris cela, alors on doit réaliser pourquoi le service n'est pas un aspect annexe de la vie chrétienne. Si on a compris la manière dont Jésus nous a servi, jusqu'à payer de sa vie le prix de notre liberté, alors toute notre vie devrait être marquée par le désir de servir. Dans le passage qu'on a lu, Jésus nous invite simplement à servir les autres comme il nous a servi. On pourrait paraphraser « Servez-vous les uns les autres comme je vous ai servi ». Le roi s'est fait esclave pour nous rendre libres afin que nous puissions servir. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est une vérité fondamentale, centrale pour notre foi. Voilà la grande histoire, voilà l'Évangile. Qu'est-ce que ça implique, on pourrait dire maintenant, pour notre compréhension du service? Et je vais, dans cette deuxième partie du message, voir quelques pistes avec vous. La première chose, je pense qu'il faut bien qu'on réalise, c'est que le service, ce n'est pas un aspect annexe de notre vie chrétienne. Nous sommes appelés à devenir toujours plus des serviteurs, à la suite du serviteur par excellence. On doit laisser le Saint-Esprit façonner notre caractère, notre personne, pour que notre vie tout entière soit une vie de service pour Dieu et pour les autres. Et ça ne concerne pas juste la vie de l'Église. Ça fait partie de toute notre identité en tant que chrétien. Si j'ai vraiment compris comment le roi des rois s'est mis à mon service, je peux que vivre une vie de service pour les autres. Et ça implique tous les aspects de ma vie, hein. Ça commence peut-être par ma vie de famille. Ma vie de famille, je ne suis pas appelé à la voir juste comme quelque chose qui va répondre à des besoins pour moi. Besoin d'affection, des besoins, je ne sais pas. Mais comme peut-être, premier lieu, un lieu de service pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes frères, mes sœurs, mes parents. Je suis appelé à envisager mes études, mon travail aussi sous cet aspect-là. Non pas comme le monde le fait, où on voit le travail juste comme un truc qu'il faut faire pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre, tout simplement. Dieu n'a pas créé le travail juste comme un truc utilitaire. Le travail est voulu par Dieu comme un service. Dès la création, c'est comme ça que c'est vu. Le travail, c'est la manière par laquelle je sers la création magnifique que Dieu a créée. Je sers celles et ceux des êtres humains que Dieu a créés. Je prends soin de cette création. Quel que soit mon travail, je dois réaliser que je suis en train de servir. Servir Dieu et servir mon prochain. Et ça, c'est l'exemple que Dieu nous laisse. Il est le roi serviteur. Et on pourrait développer ça. Mais le service englobe tous les aspects de ma vie. Vous pouvez prendre tous les aspects de votre vie et dire comment est-ce que je sers dans cela. Deuxième chose, ma vie de service doit être ancrée, fondée dans l'œuvre libératrice de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment central dans ce qu'on a lu. Si je n'ai pas compris l'importance de la mort de Jésus-Christ pour moi à la croix, alors je vais vivre peut-être le service comme quelque chose de pénible, quelque chose de... Pourquoi? Parce que la logique biblique, ce n'est pas « je dois me mettre au service de Dieu pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu ». La logique biblique, c'est « regarde ce que Dieu a fait pour toi ». Regarde comment Dieu s'est mis à ton service, à mon service. Regarde comment il s'est mis à mon service jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est parce qu'il a démontré un tel amour envers moi, parce qu'il m'a servi jusqu'au bout avec une humilité que personne ne pourra jamais avoir, parce que par sa mort, il me libère de l'esclavage du péché, alors j'y vais, je ne peux pas faire autrement que de me mettre au service avec joie, avec reconnaissance, si j'ai compris ça. C'est parce que le roi des rois n'est pas venu pour être servi, mais pour me servir, que je me mets volontairement, librement, à son service et au service des autres. Alors à chaque fois que je vais avoir du mal à servir, parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile de servir. Mais c'est un réflexe à avoir. Quand j'ai du mal à servir, surtout celui ou celle qui n'est pas toujours très sympa avec moi, pas très reconnaissant pour tout ce que je fais pour lui pourtant, il y a un réflexe à avoir. Revenir à la croix de Jésus et prendre le temps de contempler encore et encore la façon dont Jésus-Christ, le roi des rois, s'est mis à mon service. La façon dont il a servi ceux qui l'ont injurié, ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont ignoré, ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont mis à mort. Il y a un peu plus de deux semaines, c'était juste dans le temps de jeûne et prière qu'on avait avant Pâques, la semaine sainte. On a pris un temps le samedi matin pour se laver les pieds les uns des autres. Parce que Jésus a fait ça. C'est l'évangile de Jean qui nous le raconte pour ses disciples. Et il dit, voilà, faites de même. Bien sûr, c'est le sens de ce qu'il fait qui est plus important que le geste lui-même, mais... Je pense que vous pouvez demander, je ne sais pas si plusieurs d'entre nous aussi ce matin qui étaient là, mais je crois qu'on a vécu quelque chose de beau, de fort, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais avant de nous y mettre, honnêtement, on n'était pas super à l'aise. On était un peu, on se disait, ouais, on ne sait pas trop, c'est la première fois, comment, vraiment, il faut faire ça. On était un peu angoissés, un peu comme les disciples au début du texte. Mais une fois qu'on s'y est mis, il y avait une sorte de joie, de paix dans ce moment-là, quelque chose de assez extraordinaire qu'on a vécu, comme une forme de libération. Et je crois que c'est une bonne illustration d'une vérité divine. Contrairement à ce que pense souvent l'être humain, le service volontaire qui est accompli dans un acte d'amour, de grâce, c'est un acte libérateur. Lorsque je choisis de servir comme Christ nous a servi, j'expérimente la liberté du roi serviteur. Troisièmement, pour pouvoir servir avec joie et confiance, je dois comprendre que ma valeur, mon identité, ce que je suis, ça ne dépend pas de ma position sociale. Ça ne dépend pas de mon nombre de followers sur les réseaux. Ça ne dépend pas de ma place dans l'église, sur l'estrade ou au micro ou je ne sais pas où. Ça ne dépend pas de mon nombre d'applaudissements. Ça ne dépend pas de l'admiration que les autres ont pour moi. Ça ne dépend pas de ce que les autres me disent comme remerciement ou pas. Ma valeur est définie par celui qui m'a créé. Et ce Dieu qui m'a créé dit que je suis une créature merveilleuse, que j'ai été créé à son image. Le Dieu créateur a donné à tous les êtres humains une position de premier ministre quelque part dans son royaume, responsable de servir sa création. Et si j'ai encore des doutes, je dois me rappeler que j'ai tellement de valeur pour Dieu qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour me le démontrer concrètement. Le roi des rois est allé jusqu'à mourir atrocement sur une croix pour que je puisse être libéré de l'esclavage. Si je n'ai pas de prix à ses yeux, je ne sais pas comment il pourrait faire d'autre pour me le démontrer. Et quand il l'a fait, j'avais encore rien fait, moi. Je n'étais même pas né, hein, quand Jésus est venu il y a 2000 ans. En tout cas, pas moi, je pense personne d'entre vous, mais... J'avais encore rien fait pour le mériter. Mais voilà qui je suis, non pas parce que ça dépend de mon service, ma position sociale ou autre, mais c'est parce que c'est Dieu lui-même qui le dit. Et il est mon créateur. Il n'y a personne de mieux qui le sait que lui. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça pour pouvoir se mettre au service. Ma valeur ne dépend pas de la visibilité de mon service. Selon le regard de Dieu, le président de la République, il a autant de valeur que celui qui nettoie les toilettes au palais de l'Élysée. Dans l'Église, celui qui sert en faisant le ménage, il a autant de valeur pour Dieu que celui qui sert en apportant une prédication. Ma valeur ne dépend pas de ma réussite sociale. Ma valeur ne dépend pas de ma richesse, de ma visibilité. Jésus, c'est le roi des rois glorieux, le Dieu de toute éternité, et il savait qu'il l'était. Et pourtant, il était méprisé, injurié, rejeté, mis à mort. Mais il ne s'est pas senti remis en cause dans son identité. Sur la croix, vous savez, lorsqu'il mourait, il était tout autant le roi de gloire que dans son ciel de gloire. Vous voyez, Jésus nous invite à ne pas penser comme le monde pense, à arrêter de valoriser des positions. Et je crois que dans l'Église, c'est le premier lieu où ça doit être le cas. Vous savez, il n'y a pas de montée en grade dans l'Église. Il n'y a pas des services qui seraient mieux que d'autres. Il n'y a pas d'échelle de service. Ma valeur dans le corps du Christ, elle ne dépend pas de ma visibilité, de la façon dont je suis honoré même par les autres ou mis en avant, parce qu'on a tous ce réflexe-là, on va mettre en avant plus certains. Mais ce n'est pas juste. Quel que soit le type de service que je fais, j'ai la même valeur aux yeux d'un Dieu qui a donné sa vie en rançon. Pour moi, c'est important. Et puis dernier point, et là c'est aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire une façon de paradigme, c'est une façon de voir le monde, une façon de voir les choses, où là aussi Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas comme le monde le voit qu'on doit penser. Jésus nous invite à ne pas vouloir diriger comme le monde dirige. Il dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est étonnant, hein? Autrement dit, Jésus nous invite à... Qu'est-ce qu'il nous invite à faire? À faire passer l'autre avant moi. Et ça, c'est l'attitude du serviteur. Le serviteur choisit simplement de faire passer l'intérêt de son prochain avant le sien. De valoriser la vie de son prochain plutôt que la sienne. Ce que Jésus a montré. Et dans une société, vous savez, on est tellement centré sur soi, on est une société quand même très individualiste en Occident, en France en particulier. C'est mon plaisir personnel, mon épanouissement personnel qui compte avant tout. C'est pas très à la mode tout ça, hein, ce que dit Jésus. Et on a plutôt tendance à faire passer mon intérêt avant celui de l'autre. Il faut devenir des gagnants, pas être des losers. Ce qui compte, c'est ma réussite personnelle, même si ça se fait au détriment des autres. C'est pas grave, dégâts collatéraux. Mais c'est pas ce que Jésus nous montre par son exemple. Jésus cherche pas à être une star à son époque, il cherche pas à être vu comme un vainqueur à tout prix, il cherche à placer les intérêts des autres avant les siens. Il donne sa vie pour nous sauver. Et rappelons-nous que pour pouvoir adopter cette attitude, il faut qu'on ait bien compris, c'était le point d'avant, notre identité, qui ne dépend pas de notre position sociale. Rappelons-nous aussi que c'est en tant qu'esclaves libérés, libres, que nous sommes appelés à servir volontairement. Jésus nous a libérés de l'esclavage. Il nous appelle à nous mettre au service des autres, volontairement, de manière libre. Jésus était libre dans sa façon de se mettre à notre service. Il n'avait pas besoin de donner sa vie pour être plus heureux ou pour être plus honoré. Il n'avait aucune obligation de nous sauver, de nous servir. Et pourtant, par amour pour nous, il choisit de s'humilier en donnant plus de valeur à notre vie qu'à la sienne. Est-ce qu'on est prêt à faire ce choix dans nos vies au quotidien, dans notre travail, dans notre lieu d'études, dans notre vie d'église? Est-ce qu'on est prêt à, ce matin à dire à Dieu « Oui, je veux servir mon prochain. Et je voudrais décider de ne plus vivre uniquement pour moi-même. » Non pas parce que je pourrais obtenir quelque chose comme ça. Non pas parce que je sais pas, je vais arriver à plus de réussite ou c'est le processus pour venir en position plus haute. Non, parce que toi, le roi des rois, tu es venu me servir jusqu'à la mort sur la croix afin de me rendre libre. C'est par amour, par joie, par reconnaissance que je veux décider de servir. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur, fermer les yeux un instant et juste prendre un temps, peut-être dans le silence, devant Dieu, qui connaît nos cœurs, nos pensées, pour aussi s'examiner soi-même, répondre à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous servir jusqu'à la mort sur la croix. Et Seigneur, je te prie que ce matin et tous les jours de notre vie, tu nous aides toujours à réaliser et à revenir vers la croix pour réaliser encore et toujours plus combien tu nous as servi et aimé à travers cela. Ô Seigneur, donne-nous de puiser dans ton amour manifesté pour nous en Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur, la richesse, la largeur, la hauteur de ce mystère incroyable, Seigneur, de ton amour pour nous. Et qu'en comprenant cela, en contemplant même tout simplement ton amour, ton service, nous comprenions que tu nous as rendus libres, Seigneur, à travers cela. Tu as payé d'un grand prix, Seigneur, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Et Seigneur, donne-nous de vivre cette liberté, non pas pour nous affirmer nous-mêmes, mais pour pouvoir servir avec joie, te servir, mais aussi servir notre prochain, d'être libéré pour servir, non plus par contrainte ou parce qu'il faut ou sous le poids des contraintes de ce monde, mais parce que tu nous aimes et parce que tu fais de nous, Seigneur, des serviteurs dans ton royaume incroyable. Alors Seigneur, donne-nous de changer de regard, changer de lunettes, et de pouvoir voir le service dans ce mois où on va parler du service, de pouvoir voir le service comme tu le présentes et tu le vois, comme quelque chose de beau, parce que toi-même, tu nous l'as démontré par ta vie en Jésus-Christ. Qu'à toi revienne toute la gloire, notre Dieu. Voilà. Amen.
Merci.